Alors, avant de commencer le message, on va se courber dans un mot de prière. Dieu éternel et Père céleste, tu es notre délivrance, tu es notre bouclier et notre refuge, et la louange de notre salut. Nous te louons et nous t'offrons notre éternelle gratitude parce que tu as envoyé ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour offrir sa vie pour nous sur la croix. Il est notre force et notre adoration. Il est devenu notre salut et le sauveur du monde, car personne dans le monde ne trouvera jamais le salut en aucun autre. Et personne ne peut venir à toi, Père très saint, sauf à travers Jésus-Christ. On ajoute, Père, notre témoignage personnel à ce que ta parole déclare dans la consommation de toutes choses. Ceux qui ont mis leur confiance en Christ ne seront jamais consternés. On reconnaît, Père gracieux, que notre salut est ton travail en tout, que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes ou même de contribuer à aucun mérite venant de nous dans le but de gagner ta faveur. Mais tu as pris l'initiative, tu as tracé le chemin, tu nous as réconciliés à toi-même au travers de Christ. Celui qui n'a jamais commis le péché, tu as fait de lui péché, afin que nous devenions justice en lui. Tu nous as aimés en premier, alors que nous étions encore tes ennemis. Père éternel, tu es ma force et le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Ta droite, ô éternel, manifeste ta puissance. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous te bénissons de la maison de l'Éternel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alors ce matin, j'ai le privilège de continuer la deuxième partie concernant notre confession de foi, ce que nous croyons. Et on va avoir trois points ce matin que nous allons explorer et je terminerai, Dieu voulant, la semaine prochaine avec la fin de la confession de foi. Mais vous rappelez-vous, il y a quelques semaines passées, lorsque j'ai posé la question, qu'est-ce qu'une confession de foi? Ou qu'est-ce qu'une profession de foi? Une profession de foi, c'est le fait que je déclare ouvertement, je ne me cache pas pour le dire, je le dis ouvertement, je le dis publiquement, que je crois, que j'ai la foi. Ça peut être dans quelque chose peut-être temporel, malgré qu'avoir la foi dans quelque chose de temporel, c'est... Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais avoir la foi dans ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de cela que je veux parler ce matin. Dans le christianisme évangélique, c'est ça, c'est nous, on est des chrétiens évangéliques. La profession de foi consiste en un témoignage de conversion personnelle. Lorsqu'on baptise quelqu'un, on lui demande tout le temps d'amener sa profession de foi. Comment Dieu a travaillé dans sa vie? Comment cette personne-là était au début? Parce qu'on sait qu'on est tous des pécheurs. Et comment graduellement dans la vie de cette personne-là, Dieu s'est manifesté jusqu'au jour où l'Esprit-Saint a touché cette personne-là et qu'elle a reçu le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Donc, c'est une conversion, un témoignage de conversion personnelle juste avant d'être baptisé. Donc, une personne doit confesser sa foi avant le baptême. Chose qu'on ne fait pas dans certaines religions. On baptise avant de confirmer, avant que la personne puisse faire une confession de foi. Et encore là, la personne est très jeune. Donc, pour nous, les chrétiens évangéliques, la profession de foi, c'est important parce que c'est elle qui démontre ce en quoi nous croyons. Et ce rite-là est ainsi réservé à des adolescents et des adolescents qui sont matures. Parce qu'il y a des adolescents, parfois, qui peuvent être influencés par d'autres adolescents. Je me souviens d'un groupe de jeunes filles à l'église de Gatineau. Parce qu'une se faisait baptiser, toutes les autres ont voulu se faire baptiser. Et toutes les autres, arrivées à l'âge de 18 ans, ils ont abandonné le Seigneur. Donc, ces personnes-là, ces jeunes ados-là, n'étaient pas sauvés. Et on parle aussi des aussi réservé aux adultes sérieux. C'est-à-dire que je ne le fais pas parce que ma femme ou mon conjoint est sauvé. Je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. Je le fais parce que j'ai vraiment, vraiment compris le message de l'Évangile, que j'ai reçu le pardon de tous mes péchés à cause de Christ, mon Sauveur, et que maintenant, par sa grâce, par son aide, je puisse marcher dans la foi. Notre confession de foi, maintenant je parle de confession de foi, c'est lorsqu'on parle d'une église ou d'une association, là ça devient une confession de foi. C'est la même chose, c'est ce en quoi nous croyons. Mais l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury fonde ses croyances sont sur la base de la foi chrétienne au travers des enseignements de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Elle ne va pas chercher ailleurs que dans la parole de Dieu les fondements de sa foi. On n'a pas la Bible et un autre petit livre qui, des fois, devient plus important qu'un autre. Non, seulement les Écritures, sola scriptura. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas la tradition. Donc, nous fondons nos croyances dans la foi chrétienne à travers les enseignements de la Bible et notre confession de foi en tant que chrétien présente les aspects essentiels et fondamentaux parce qu'on ne peut pas écrire toute la Bible dans une confession de foi. Sinon, elle sera aussi grosse et aussi épais que ça. Mais ça ramasse tous les aspects essentiels et fondamentaux de notre compréhension du christianisme. Si je lis la confession de foi, j'ai un point de vue global de ce que nous croyons, de ce que le chrétien né de nouveau croit. Alors, on a vu il y a quelques semaines passées, on a parlé des Écritures. On a parlé de Dieu, le Dieu trinitaire, de Dieu le Père, de Dieu Jésus-Christ. Et maintenant, ce matin, nous allons poursuivre avec Dieu le Saint-Esprit. Vous avez tous le feuillet? Si vous n'avez pas le feuillet, faites juste lever la main. On peut aller vous en distribuer un. Alors, nous croyons que Dieu, le Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait, que le Saint-Esprit est une personne pleinement divine et qu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de la journée où ils ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Y en a-t-il qui se rappellent de ça? La journée de leur conversion. Puis moi, je me demande tout le temps, comment ça se fait que j'ai... 10 minutes avant, j'avais de la misère à croire que qu'est-ce que la parole de Dieu disait. Puis tout d'un coup, on aurait dit qu'il y a un voile qui s'est levé. Et puis j'ai cru. Mais c'est là que le Saint-Esprit est arrivé. C'est là que, au moment où quelqu'un me partageait la parole de Dieu, l'Esprit m'a donné la vie. Et à partir de ce moment-là, je ne dis pas que je comprenais toutes les Écritures, mais j'ai compris que le Seigneur, j'avais besoin d'un sauveur, que j'étais perdu. J'avais besoin d'un sauveur et que, à partir de ce moment-là, Christ, je réalisais que Christ avait donné sa vie pour me sauver. Au moment du salut, l'Esprit-Saint, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous régénère. Il nous donne la vie. Il nous baptise. Et on va voir des passages pour appuyer cela. Il habite en nous. C'est le Consolateur promis. Il distribue à chacun ses dons. Allez pas me dire à matin, si vous êtes un chrétien, que vous n'avez pas de dons pour servir. Que être chrétien, c'est juste venir à l'église, puis à part de ça, les réunions de prière, les études bibliques, servir dans l'église, c'est pas pour moi. C'est pas vrai. Le Seigneur va vous demander de rendre compte pour ça. Puis probablement que vous n'avez pas compris vraiment le salut si vous n'avez pas manifesté le désir de vouloir servir le Seigneur dans son Église. C'est lui, l'Esprit-Saint, qui nous fait revoir, voir, qui nous fait découvrir nos dons. Dieu nous a donné des dons. Qui vont nous permettre de vivre une vie de service semblable au Seigneur Jésus-Christ? Et on va aller voir des versets pour appuyer cela. Premièrement, ils sont tous au PowerPoint. Bon. On va aller dans Jean 16, verset 8. Et là, le Seigneur dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Juste ce simple verset-là, juste ces paroles du Seigneur Jésus-là sont un appui pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ensuite, dans Tite 3, verset 5, Paul nous dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Je me rappelle, j'étais avec Guy, je crois, dans un restaurant où un pauvre monsieur disait que c'est ses œuvres qui allaient le sauver. Quelle erreur! Quelle déception pour cette personne-là lorsqu'elle arrivera devant son Créateur. On n'est pas sauvé à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous savez, le baptême, je vous l'ai dit souvent, c'est une figure. C'est un moyen visuel de voir ce qui s'est passé dans notre âme, dans notre cœur. On a été enseveli avec Christ et on est revenu à la vie. Une personne nouvelle, une nouvelle créature. Et c'est ça qu'on appelle la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains, chapitre 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Et il parle aux chrétiens ici. On ne vit pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsqu'on voit des gens qui se disent chrétiens et qui marchent tout le temps selon la chair, l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra, ça c'est le Père, hein, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a un combat spirituel en chacun de nous. On a à lutter contre les forces du mal. Et la chair est faible. C'est facile de tomber. Mais si on s'accroche à Dieu, si au lieu de lorsque la tentation vient, on détourne notre regard et on se tourne vers Dieu. Il y a de l'espoir. Oh, ça va arriver qu'on va tomber. Mais si on grandit dans la foi, petit à petit, les victoires vont venir. Paul dit dans Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Il n'y a pas 75 sortes d'esprit qui vit en nous. Il y en a un seul. Et c'est l'Esprit de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, c'est-à-dire soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si quelqu'un amène un enseignement contraire à ce que la parole de Dieu dit, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et finalement, vous connaissez tous le passage dans Galates 5, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Au contraire, si tu obéis à la loi, c'est parce que tu as de l'amour pour ton prochain, tu as de l'amour pour Dieu, tu as de la joie. Ceux qui sont en Jésus-Christ, Paul dit, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est ça qu'on doit faire à chaque jour. Crucifier la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, l'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est elle qui nous convainc de péché, c'est elle qui nous convainc qu'il y a un salut parfait en Jésus-Christ. C'est lui qui manifeste l'amour de Christ en nous. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous régénère. Et c'est important de savoir ces passages-là. Je ne vous dis pas de les apprendre par cœur, mais je vous dis juste une chose. Sachez les reconnaître lorsque vous aurez à débattre de votre foi. Parlons maintenant des anges. On avait toujours des beaux petits dessins, hein, des fois, quand on était jeune. Des belles petites... comment est-ce qu'on appelait ça? Moi, j'aimais ça avoir des petites cartes là, que les religieux te donnaient, là, avec un beau dessin de la Bible dedans. Des fois, il y avait des anges. C'était donc beau, hein? Il existe les anges, je veux dire. Et nous croyons que Dieu a créé les anges pour sa gloire et pour son service. Il y a des anges, certains d'entre eux, sous l'influence de leur chef Satan, qui voulaient être au-dessus de Dieu. Bien, ces anges-là se sont rebellés. Et on dit qu'un tiers des anges ont été envoyés en enfer avec Satan. Pourquoi? Parce que ces anges-là s'opposaient à Dieu. Ils voulaient être au-dessus de Dieu. Le Seigneur Jésus, par contre, a vaincu Satan. Et ça, c'est une chose qui m'est chère, qui doit être chère à vous tous. Pourquoi? Parce que la victoire finale, c'est Jésus qui la remporte. Et si on est enfant de Dieu, on est plus que vainqueur, comme Paul dit dans Romains. Oui, ça paraît peut-être pas aujourd'hui. On souffre, on est malade, on se fait ridiculiser. Il y a des endroits dans le monde où être chrétien, c'est vraiment un défi incroyable. On est bien ici. Et prions pour que... On a élu un gouvernement lundi. Je ne fais pas de favoritisme pour aucun gouvernement. Tout ce que je vous dis, c'est prions que le gouvernement puisse nous donner la paix et tous les privilèges qui se rattachent à une église, à une association, aux chrétiens, de pouvoir librement se réunir, de pouvoir être exempt de certaines taxes, pour être capable de garder ces argents-là pour réinvestir dans le royaume de Dieu. Prions, même si ces gens-là ne sont pas des chrétiens, que ces gouvernements-là vont amener une paix à chacun de nous. Le Seigneur Jésus a vaincu Satan. Les anges déçus avec Satan, ils ont une chose qui va leur arriver, c'est qu'ils vont être jetés à la fin des temps dans l'étang de feu. Et là, avec tous ceux qui auront péri, ça ne va pas être des souffrances temporaires, mais des souffrances éternelles. Et une des plus grandes souffrances qu'ils vont avoir à endurer, c'est celle d'être séparés de Dieu. Oui, les flammes vont être là, mais le fait d'être séparés de Dieu, ça va être leur torture. Les passages qui nous amènent à soutenir les anges, c'est qu'on a Éphésiens 6:12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Je vous ai dit tantôt qu'on était en guerre, une guerre spirituelle contre les principes du monde. C'est pas juste contre la chair et le sang, contre ton voisin ou quelqu'un d'autre qu'on a lutté, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout cet univers-là est à nos trousses. On veut nous faire tomber. On veut qu'on soit des mauvais témoignages. Excusez. C'est plus facile, je pense, manger une claque en plein visage que de lutter contre des péchés, contre la sexualité, le vol, ces choses-là. Satan connaît nos points faibles. Et il s'attaque à nous, surtout à nous. Hébreux 1, verset 14. « Ne sont-ils pas tous, on parle des anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Ces anges-là sont au service de Dieu et ils sont à côté de nous. Hein, y a-t-il qui a déjà entendu mon ange gardien? Je ne sais pas si on a un ange gardien à côté de nous autres, là. Mais on sait une chose. Ils ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est nous, ça. Et il y a des histoires qui peut-être me font lever le poil sur les bras, où il y a certainement des anges qui ont aidé ou qui ont été là pour un instant pour aider une personne croyante. Hébreux 2, 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Jésus a participé lui-même, hein? « Afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. » Qui ça? Satan. Jésus a vaincu Satan. Jésus a eu la victoire sur Satan, le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est toi puis moi. On était tenus dans l'esclavage du péché. Maintenant, par la grâce de Dieu, on n'est plus les esclaves de Satan. Ah oui, on va pécher encore. Ce n'est pas une excuse. Mais de moins en moins, j'espère. Et maintenant, nous sommes au service de Christ. Et c'est pour ça, excusez-moi, qu'il y a tellement d'encouragement dans la parole de Dieu à se sanctifier, à marcher dans la vérité, à avancer dans le Seigneur. C'est pas pour rien. Si tu lis pas la parole, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas assez. Oh, je l'ai lu une fois, je le sais. Non! Ce matin, dans la prière, il y avait une partie du psaume 118 qui était incluse dans la prière à la fin. Et combien mon cœur veut louer l'Éternel à cause du salut de Jésus? J'ai besoin de me rappeler que le Christ est mort pour moi. Pour toi. Puis, Jésus ne fait pas d'exception, personne. Dans l'Épître de Jude, au verset 6, Jude dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, évidemment, les anges déchus, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Un tiers des anges ont suivi Satan, ont été précipités en enfer. Et finalement, Apocalypse 20, 10, c'est la fin, hein? C'est vraiment la toute fin ou la victoire finale est à la fin du millénium, où ça va être la victoire finale. Et le diable qui séduisait qui? Les gens qui étaient sur la terre, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont les bêtes et le faux prophète. Ils vont être tourmentés jour et nuit pour des siècles, des siècles. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Ce n'est pas une souffrance temporaire, mais une souffrance éternelle. L'humanité. On croit que nous croyons que l'homme a été créé divinement par Dieu. On se rappelle la création. Et que l'homme a été créé à son image. Les premiers humains, Adam et Ève, par contre, ont désobéi à la volonté de Dieu. Et on en a parlé dernièrement. Et en conséquence, tous les aspects de leur nature humaine sont devenus corrompus et coupables devant Dieu. Qui, c'est-tu Marc qui disait la semaine passée, l'enfant qui était avec nous, la petite Monique, elle était à son état peut-être le plus pur. Parce que consciemment, l'enfant n'a pas péché. Mais elle est, par nature, pécheresse. Et plus elle va grandir, plus on va voir la corruption du péché en elle. Et je ne suis pas en train de la descendre, c'est un fait réel. On est tous devenus corrompus, on est tous coupables devant Dieu. Et c'est là que je vois la justice de Dieu. Il y a des personnes qui ne croient pas en l'élection parce qu'on dit « Oh, Dieu n'est pas juste ». Dieu est juste parce qu'on était tous condamnés. Et dans son amour, Dieu a choisi d'en sauver. Sinon, on ne serait pas ici, personne ici ce matin. Si tout le monde serait sauvé, bien Christ serait venu sur la croix pour absolument rien. Et si ça dépend de moi d'être sauvé, si c'est moi qui dis « Moi, je veux être sauvé », ben je suis contre, premièrement, la confession de foi et qu'est-ce que j'ai lu tantôt, comme quoi que dans la prière où ce que j'ai aucun mérite, c'est pas moi qui ai souffert sur la croix, c'est Jésus. Et Jésus dit lui-même à son Père, « Tous ceux que tu m'as donnés, il ne parle pas de tout le monde, là. Il parle de ceux que Dieu lui a donnés, que ceux dont le nom a été écrit avant la fondation du monde. » Oh, ça fait mal, oui. Surtout lorsqu'on voit des gens autour de nous qui sont des personnes qu'on aime puis qu'ils n'ont pas de place pour Jésus dans leur vie. Ou ils en ont une petite place, là, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous savez, lorsque le péché est entré dans le monde, Adam et Ève étaient maintenant spirituellement morts. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais spirituellement, ils étaient morts. Ils ont été assujettis immédiatement à la mort physique. Ça, c'est à pour venir. Et aussi, ils devenaient les sujets de Satan. Ça n'a pas été long. La génération qui est née tout de suite après, là, leur enfant, là, Caïn et Abel, bien déjà, on a le premier meurtre. Caïn qui tue Abel. Dans l'humanité tout entière, à l'exception de Jésus-Christ, l'image de Dieu est déformée à cause du péché. Parce que dès sa conception, dès que le péché a été conçu, dès qu'on commet le péché, dès qu'on est, on hérite de cette nature pécheresse-là. Donc, on est des pécheurs par nature et par choix. Allez pas vous imaginer qu'on aurait fait mieux qu'Adam et Ève. On est aliéné et condamné par Dieu. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme supérieur. Il n'a pas créé la femme supérieure. Il a créé l'homme et la femme. Chacun a reçu un rôle. Et malheureusement, le mariage ici, ce n'est pas entre un homme et un autre homme, mais c'est entre un homme et une femme. Et à partir de là, il y a eu la création. La création, c'est-à-dire la conception de d'autres enfants. Genèse 2, verset 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est là le début du péché. Genèse 3, 6. « L'homme vit que l'arbre était bon à manger. » Ce n'est pas le début, c'est-à-dire c'est là l'avertissement de Dieu de ne pas aller. Et en Genèse 3, 6, c'est là que le péché arrive. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Le psaume 51, un beau psaume. Vous vous souvenez que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Et là, le prophète vient lui dire que cet enfant-là a été conçu dans le péché. Et David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » On aime citer le passage dans Jean 3, 16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est très beau. C'est vrai. Mais on oublie Jean 3, 36, qui dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu repose ou demeure sur lui. » Tous ceux et celles qui ne sont pas sauvés et qui nous fréquentes ou quoi que ce soit, qui font partie de notre entourage, malheureusement, la colère de Dieu repose sur toi. Elle a reposé sur moi, mais je ne suis pas meilleur qu'un autre quand j'ai entendu l'Évangile. J'ai cru. J'ai aucun mérite. Et enfin, Romains 3, 9 et 10. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs ou grecs, Paul va dire que tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne ici qui peut se vanter d'être un juste, aussi spirituel que tu sois. Par contre, on peut dire, je suis un pécheur justifié à cause de Dieu. Romains 5, 12, c'est pourquoi, et jusqu'à 14, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, hein, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Et je termine avant la conclusion avec le dernier passage, Éphésiens 2:1, qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » On n'était pas à moitié mort, on était mort. Dans lesquels on marchait autrefois. Paul s'adresse aux Éphésiens qui se sont convertis. Il dit, vous étiez morts par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est le diable, c'est Satan. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. J'aime parler de l'amour de Dieu parce que ça me réconforte beaucoup quand je regarde ma vie. Mais il ne faut pas que j'oublie de dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur après un temps, mon ami, la colère de Dieu repose sur toi. Tu as besoin de cette bouée de sauvetage-là. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Il ne faut pas juste le dire. Puis ce n'est pas la petite prière de repentance qui fait que tu es sauvé. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui prônent ça. Fais cette petite prière-là, puis tu es sauvé. J'appelle ça, moi, un salut cheap. Non, reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es perdu. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, pour mourir sur la croix. Et quand Jésus était sur la croix, tu étais dans sa tête. Il a porté les péchés de tous ceux qui allaient venir à lui. Maintenant que tu as fait ce pas de foi-là, cette profession de foi-là, et que tu confesses devant le monde que Jésus-Christ est ton sauveur, marche, avance, tu vas tomber. Un bon livre à lire, c'est « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan. Si jamais vous pouvez mettre la main sur ce livre-là, c'est l'exemple parfait d'une vie d'un chrétien. Je conclue en disant ceci. Toute personne, qu'elle en soit consciente ou non, je m'adresse souvent ici à des personnes qui se disent athées. Toute personne, qu'elle soit consciente ou non, croit en quelque chose. Et elle agit selon ou en fonction de ce qu'elle croit. Hein? On pense qu'il est impératif de se demander en quoi je crois, de vérifier si nos croyances correspondent à la vérité ou à l'erreur. C'est un examen de conscience que nous avons tous à faire à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut la vérité de la parole de Dieu pour nous enligner ou nous aligner dans le bon sens. Et en affirmant cela, la confession de foi, on déclare qu'il est possible de connaître la vérité et d'exprimer celle-ci de manière objective. Et cette façon d'exprimer la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur le but de l'existence et la destinée de l'homme, c'est ce qu'on appelle une confession de foi. Je reviens à cette banderole-là que j'ai vue quelques semaines passées à l'église Emmanuel à Montréal, qui disait ceci. Connaître Dieu pour mieux le faire connaître. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de connaître Dieu. Je ne te dis pas de l'apprendre par cœur, je te dis juste de connaître Dieu. Prends ta confession de foi de l'Église, puis relis-la souvent. Essaye de mémoriser certains passages par cœur. Parce qu'il y a des gens qui se promènent dans les rues, qui cognent à ta porte, puis qui viennent annoncer un faux Messie. Est-ce que tu vas te laisser embarquer? Ou ben non, si tu vas être capable, à ton tour, d'exprimer la vérité avec amour à cette personne-là. Et je dis avec amour parce que elle a aussi besoin d'entendre la vérité que toi, tu en avais besoin. C'est de notre responsabilité de connaître Dieu en lisant et en méditant sa parole à tous les jours. Tout cela pour mieux le faire connaître au monde entier, en obéissant aussi au commandement du Seigneur qui nous a dit dans Matthieu 28, « Allez, c'est un impératif, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et la belle promesse là-dedans, c'est que le Seigneur Jésus nous dit, « Et moi, je serai avec vous à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen.